Il y a deux aspects essentiels à développer dans l'exercice de la méditation. Le premier, c'est de voir le bruit mental pour pouvoir aller au-delà, à travers. Nous avons une habitude de commenter toujours tous les contacts qui nous touchent, de soit les juger, les évaluer, les rejeter, se les approprier. Et ça va très vite et nous ne voyons pas que ces pensées ont émergé. Ou alors nous les voyons, mais nous ne les acceptons pas et elles continuent. Et nous sommes emprisonnés par ce bruit mental qui nous empêche d'avoir accès au deuxième aspect de la méditation, qui est de voir les choses telles qu'elles sont. Lorsque l'expérience du maintenant est couverte par le bruit mental, c'est difficile d'aller dans le psychocorporel et d'être dans cette simplicité de la reconnaissance d'une émotion perturbatrice qui a émergé ou d'un état désagréable. Tout de suite, le mental va s'en saisir pour créer un moi qui fait faux, qui aurait dû, qui devrait créer du passé, du futur, de la projection ou du regret, du doute ou de la culpabilité. Et si nous n'avons pas habitué l'esprit à cette stabilité lorsque l'expérience est neutre, cette constance de présence qui ne se soucie plus ou qui ne prend plus en compte cette agitation conceptuelle, la pensée va avoir trop de pouvoir. Elle va être trop importante, elle va être trop. Nous allons nous l'approprier immédiatement. Et si nous ne nous l'approprions pas en tant que pensée, nous nous l'approprions en tant qu'énergie. Et c'est quand même étonnant combien nous nous approprions des expériences douloureuses. Au fond, tout ce que nous cherchons, c'est à les lâcher. Et nous faisons concrètement le contraire. Lorsque quelqu'un nous parle, nous critique, nous parle méchamment, nous rejette, c'est la flèche au cœur. Et au lieu de pouvoir immédiatement venir là, dans le psychocorporel,
Oui, tiens.
Et de pouvoir reconnaître, ben voilà, quelqu'un qui a oublié son portable, pas de problème. Nous montons au mental et nous créons un monde sans le voir. C'est ça le problème, c'est que nous créons un monde sans le voir. Il y a ce phénomène d'appropriation de la pensée. Je crois que je suis ce que je pense.
Avidja.
a dit le Bouddha. Ça, c'est l'ignorance. Donc, il s'agit d'abord d'enlever le bruit pour pouvoir laisser être l'expérience, laisser faire l'expérience. Parce que toute expérience a une naissance qui est liée à un contact, un temps de vie plus ou moins long, selon que cette connexion est établie avec le maintenant, et une fin. Pour habituer la connexion à se faire de manière constante et forte et stable dans le corps, ça demande un effort. Nous n'avons pas été éduqués à être là, nous avons été éduqués à toujours faire les choses dans un but, à être dans le bien, dans le mal, à être le bon petit qui fait tout juste pour son papa et sa maman, ou le méchant qui fait tout faux. Et c'est difficile de lâcher l'habitude de faire des commentaires sur tout ce qui arrive, de au fond sauter des étapes au lieu de venir dans le ressenti qui est le maintenant, surtout les ressentis désagréables, mais en fait même les ressentis agréables, nous oublions de les laisser offrir leur richesse d'être maintenant. Et c'est comme si nous sautions par-dessus à pieds joints pour aller dans le mental qui élabore, qui construit. Mais le mental qui construit, c'est du vent, ce n'est pas du réel. Et c'est du vent très utile. Toute l'investigation spirituelle, les paroles du Bouddha, les enseignements, toutes les paroles qui font du bien au cœur, les paroles de fraternité, de reconnaissance, c'est précieux. Le problème, c'est que nous y croyons. Nous sommes dans une croyance que les choses devraient être parfaites, une croyance que lorsque ça ne va pas, il y a une erreur. Et ce système de croyance, c'est indispensable de le mettre en conscience. Les schémas d'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui. C'est pas que ce soit totalement faux, mais ça n'est pas quelque chose qu'il faut s'approprier. Ou c'est quelque chose qu'il faut voir que nous nous approprions. Si je vois que je construis un moi, il n'y a aucun problème. Parce que nous allons continuer à construire un moi. Mais l'amener en conscience permet d'ouvrir le cœur, de se rendre compte que ce que je construis est fermé par définition. Il y en a d'autres qui construisent totalement autrement. Et quand j'ai une opinion sur quelqu'un, une opinion critique, mentalement je peux très bien voir que la personne d'à côté, peut-être qu'elle trouve c'est la même personne que je critique formidable. Et pourtant, cette vastitude de conscience qui met les choses en perspective, tout à coup manque. Je crois que c'est comme ça. Je, moi.
Donc, si nous voulons pouvoir être efficaces dans ce processus de purification de l'ombre, des traumas qui ont été marqués dans le corps, il faut que nous nous efforcions de rester connectés. Et quand le bruit nous happe, ah, je reste connectée, ah tiens, là j'étais happée. Combien c'est différent de dire gentiment, ah tiens, j'étais happée. Ah tiens, je juge, là il y a du jugement. Oh, là c'est une pensée d'inquiétude, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, la peur, c'est le cœur. J'ai peur, nous avons peur de perdre. Nous sommes attachés à tellement de choses. Et lorsqu'il y a une émotion perturbatrice, nous perdons notre clarté intérieure et nous perdons la stabilité du moi. Je me sens perdue, je me sens confuse, perdue, isolée. Et en général, quand ce genre d'énergie émerge, si nous n'avons pas suffisamment travaillé la stabilité mentale, nous allons nous l'approprier. C'est moi qui suis toute cette richesse du contenu émotionnel de la conscience, de l'esprit. Nous oublions que les choses sont impermanentes. Nous oublions qu'il y a autant de moi que de corps-esprit. Nous avons l'impression que c'est vrai. Ce que je sens là maintenant est vrai. Alors que c'est une croyance. La seule chose qui est vraie, c'est la connexion. Est-ce que je peux être connectée, oui ou non? Et peu à peu, nous apprenons que la connexion est merveille et qu'elle n'est pas dépendante de l'expérience. Je peux vivre une expérience terrible, avec beaucoup de joie, si vraiment je me sens connectée. C'est-à-dire si vraiment il y a cette sagesse qui peut dire... Quand c'est vraiment trop dur, moi j'adore les paroles de Jésus sur la croix quand il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Des fois c'est vraiment trop dur. Waouh, c'est l'ignorance. Nous sommes aveugles, l'autre est aveugle. Et moi quand je réagis, je me laisse prendre par cet aveuglement. Parce que c'est difficile de juste dire « Il y a souffrance. Waouh, il y a dukkha. Notre addiction aux pensées, à nos systèmes de croyances, elle est puissante. Et tout l'exercice de la méditation, c'est d'abord de voir combien ces schémas émergent et nous emprisonnent. Et après, d'être OK pour aller derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il y a cette ce que le Bouddha appelle tanha, cet attachement à ce qui est agréable et ce rejet de ce qui est désagréable. Combien nous sommes attachés à notre confort. psychologique, matériel, spirituel, relationnel.
L'idée n'est pas de lâcher nos attachements, mais c'est vraiment de les mettre en lumière. Parce que j'aime quand le Bouddha dit « Un esprit cultivé va naturellement vers la libération. » C'est parce que nous cultivons l'esprit que les choses s'ouvrent, se clarifient, se simplifient et que nous commençons à être OK avec l'impermanence. OK avec le changement. Et au lieu qu'il y ait toujours ce jeu où j'aime, je veux, j'attrape, j'aime pas, je veux pas, c'est désagréable, je rejette, il n'y a plus que ce « Ah, quel est le maintenant ?» Et la compassion est importante, et la joie est bonne. Et non pas une joie dupe qui croit que ça durera toujours, mais une joie bonne et ouverte et sage. Voir que chaque expérience a un début, un milieu et une fin. Là, hier matin, tôt, le papa de mes enfants est décédé. Il y a des toutes petites fins, la fin de cette session de méditation bientôt, la fin de cet enseignement. Des très petites fins, la fin de ce mouvement terminé. Et puis il y a des grandes fins. Où le non-attachement devient réel. J'étais très touchée quand j'étais dans la chambre de Jean. Et puis que je voyais tous ces objets. On accumule des objets auxquels nous donnons sens. Il y a toute une histoire derrière chaque objet. Et quand la conscience individuelle n'est plus là, qu'elle a rejoint la conscience universelle, tous ces objets perdent. Ce qui donnait sens, c'est ce qui avait une histoire. C'est la fin du temps. Il n'y a plus de temps. Et combien nous sommes attachés à ces constructions liées au temps qui donnent un sens, une histoire à chaque chose. Et c'est beau, c'est la vie elle-même. Mais ce qui est important, c'est de décoller la conscience. C'est très intéressant de voir comment nous sommes très intéressés à savoir ce qui se passe après la mort. Mais il n'y a personne qui a écrit des longs traités sur ce qu'il y avait avant la naissance. Le moi, par définition, il est attaché à lui. Mais avant la naissance, il y avait quoi ? Il n'y a pas de réponse à ce grand mystère. Et c'est ça qui lui donne toute sa valeur. Si on savait quelle va être notre vie au moment de la naissance, il n'y aurait pas de fin. C'est parce que nous ne savons pas que c'est si beau et profond. Et lorsque nous nous habituons à vénérer le maintenant, que nous savons rencontrer des maintenant de plus en plus délicats ou défiants, eh bien, nous apprivoisons l'impermanence et toutes ces petites morts qui sont les nôtres
Moi, à 30 ans, franchement, je suis morte depuis longtemps. Hein. Moi, à 20 ans, je suis morte depuis très longtemps. Si je me rencontrais à 20 ans, je ne serais pas du tout ma meilleure amie. Mais nous continuons à dire « moi ou... ». En fait, c'est juste une idée, un idéal qui est utile pour la vie sur Terre, mais qui ne doit pas être pris pour une vérité. Ça n'est pas une vérité, c'est quelque chose de nécessaire pour, en tant qu'être temporel, mais c'est quelque chose de très limitant lorsque nous voulons cultiver le maintenant. Tout jugement, toute projection, tout regret, toute culpabilité, tout drame prend ses racines dans cette croyance en un moi qui pourrait être parfait et éternel, permanent. Donc, cultiver la présence fait que ça devient, il y a de moins en moins d'obstacles. Ça devient de plus en plus constant et stable. Aussi, le bonheur de la méditation émerge. Parce qu'il y a moins d'efforts à faire, plus de simple présence, et peu à peu, l'équanimité s'installe. Et cette qualité d'accueil, de « ah !» qui enlève la deuxième flèche. Ok, des fois quand je fais ah, là il y a eu le choc. Mais je peux quand même faire ah. Mais pour ça, il faut que j'ai cette compréhension que à travers l'expérience douloureuse, il y a une immense richesse. C'est qu'à cet endroit-là que je peux être libérée. Et comme c'est l'avant, je vais reprendre une petite image de Jésus, qui n'était pas encore Christ, sur la croix. Il a accepté de vivre vraiment dukkha. Et parce qu'il a lâché prise de cet aveuglement, de cette ignorance, de croire que les choses peuvent être mieux dans le prix d'à côté, parce qu'il a vénéré l'instant, dans cette qualité extrêmement douloureuse, eh ben, il y a eu la résurrection. C'est tellement beau comme image. Nous pouvons renaître parce que nous vénérons le maintenant. Non pas tel que je veux qu'il soit, mais tel qu'il est. Et quand la conscience quitte ce contenu, on a un contenu là, et la conscience quitte ce contenu à un moment donné, et il y a juste la conscience universelle. Ben franchement, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter dans le maintenant. Comment, en même temps, la conscience peut être spacieuse et parfaitement intéressée par le contenu, ma foi, de ce truc-là, puisque c'est celui-là que nous habitons, le nôtre, hein, ce qu'on appelle « moi ». Et alors, c'est beau parce qu'au lieu de nous faire employer toujours par les conditions qui sont transitoires, qui sont illusions, Il y a quelque chose qui s'arrête. J'arrête de laisser ça toujours m'envahir. Et j'observe, je reçois, je me connecte. Alors, je vous propose qu'on prenne une demi-heure pour se connecter et voir nos pensées plutôt que d'y croire.